VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 24 décembre 2015. À la une ce soir.
La République centrafricaine, les élections du 27 décembre sont reportées mercredi prochain. Nous aurons les derniers éléments avec l'un de nos correspondants sur place.
Aucun avenir pour la nouvelle rébellion organisée au Burundi. C'est la réaction de la présidence Bujumbura, alors que ce groupe promet de chasser Nkurunziza du pouvoir.
Djibouti, Washington appelle à la remise en liberté des opposants arrêtés cette semaine.
Le Burkina va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président Blaise Compaoré. Alors, quel impact possible sur les relations entre les deux voisins?
Les relations entre les deux pays sont telles que politiquement, il est difficile de faire semblant comme si...
Nous aurons une analyse.
Ici aux États-Unis, des intempéries font au moins 8 morts, notamment dans le sud du pays.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Report des élections en République centrafricaine. Les autorités de transition ont proposé de repousser au 30 décembre les scrutins présidentiels et législatifs prévus dimanche. Nous rejoindrons dans quelques instants notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Réaction des autorités de Bujumbura à la formation des forces républicaines du Burundi, Forebu, dont l'objectif est de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Ce nouveau groupe rebelle, comme ses prédécesseurs, n'a aucun avenir, a fait savoir la présidence burundaise.
Ce n'est pas le premier mouvement rebelle qui naît au Burundi. Il y en a eu d'autres avant lui qui ont tous été étouffés dans l'œuf, a déclaré à l'AFP Willy Nyamitwe, responsable de la communication présidentielle. Le mouvement existait déjà et avait mené de nombreuses attaques, dont celle du 11 décembre contre des camps militaires, a ajouté Willy Nyamitwe. Selon un bilan officiel, ces attaques ont fait 87 morts, alors que l'ONU parle de quelques 200 civils tués. En annonçant mercredi la mise sur pied du Forebu, le lieutenant-colonel Edouard Chimirimana, ancien officier supérieur de l'armée, a expliqué que la volonté de ce regroupement des principaux groupes armés du Burundi est de chasser par la force Nkurunziza du pouvoir pour restaurer l'accord d'Arusha et la démocratie. Ce développement intervient à quelques jours de négociations sur la crise burundaise qui doivent débuter lundi à Kampala.
Voilà, et comme prévu, nous partons en République centrafricaine. Les autorités de transition ont proposé de repousser les scrutins présidentiels et législatifs. Sur place, nous avons notre correspondant Freeman Sipila. Bonsoir.
Bonsoir.
Quels sont les derniers éléments à Bangui?
Alors, le report, comme vous l'avez dit, a été officiellement annoncé ce jeudi en fin d'après-midi. C'était à l'issue d'une réunion regroupant les différentes institutions de la transition, l'Autorité nationale des élections et la communauté internationale au siège de la présidence centrafricaine. Des raisons majeures justifient donc ce léger glissement selon les termes de l'Autorité nationale des élections. La première est donc logistique. Il faut du temps pour l'acheminement des matériels électoraux dans les différents centres de vote du pays et à l'étranger. La seconde, le renforcement des capacités des agents des bureaux de vote, parce que lors du référendum, un nombre considérable de bureaux de vote n'aurait pas été pris en compte pour le remplissage des procès-verbaux par ces agents. Et donc ce report vient donc confirmer les rumeurs qui circulent ces dernières 48 heures à Bangui. Cependant, il n'impacte en rien sur la campagne électorale dont la fin est prévue pour vendredi 25 décembre à minuit.
Merci notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Freeman Sipila que nous retrouverons dans la partie magazine de notre émission. Violence dans l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu. Au moins 3 personnes ont été tuées à l'arme blanche. Attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans le territoire de Beni. Des détonations ont également été entendues et les autorités redoutent d'autres morts.
Lutte contre Boko Haram, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, estime que son pays a techniquement gagné la guerre contre le groupe djihadiste. Dans une interview accordée à la BBC, M. Buhari a affirmé que les islamistes étaient aujourd'hui incapables d'organiser des attaques conventionnelles dans le nord où ils ont leur bastion. Il a toutefois reconnu que Boko Haram s'était remis à utiliser des engins explosifs artisanaux. Il faut dire que l'ancien général s'était fixé jusqu'à la fin de l'année pour vaincre les djihadistes.
Grève des médias au Niger, la radio et la télévision d'État sont paralysées depuis mercredi. Quelques 600 agents réclament des augmentations de salaire de 20%, c'est ce qu'a annoncé leur syndicat.
Les États-Unis ont demandé au gouvernement de Djibouti de libérer immédiatement les dirigeants de l'opposition arrêtés cette semaine lors d'une manifestation qui a fait au moins 7 morts et 23 blessés. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Dans un communiqué publié mercredi, le département d'État américain a également condamné les récents actes de violence dans la capitale de Djibouti et incité le gouvernement à respecter le droit de ses citoyens à la liberté d'expression et à la liberté de rassemblement et association pacifique. L'Union pour le salut national, une coalition de 7 partis d'opposition, conteste le bilan officiel de 7 morts et 23 blessés et parle de 19 civils tués. Pour le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, il s'agit là de violences destinées à déstabiliser le pays, orchestrées, je cite, par des individus mal intentionnés, recevant des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger. Fin de citation. Le département d'État a préconisé la reprise du dialogue entre pouvoir et opposition pour assurer une élection présidentielle transparente et pacifique en avril 2016 à Djibouti. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh devrait briguer un quatrième mandat à cette élection. Djibouti, pays qui occupe une position stratégique, abrite plusieurs bases militaires étrangères, américaines et françaises notamment, utilisées en particulier dans la lutte contre la piraterie maritime. Il fournit aussi un contingent de soldats à la force africaine en Somalie qui combat les islamistes Chebab.
Nouvelle attaque contre la police en Égypte, dans la péninsule du Sinaï. Un agent a été tué et 2 autres ont été blessés. Une bombe a explosé au passage de leur véhicule. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur égyptien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, au moins 8 personnes ont été tuées. D'autres sources parlent de 10 au moins. Des dizaines d'autres ont été blessées lors de tempêtes et tornades qui ont déferlé hier sur une grande partie du pays, notamment dans le sud. Nicolas Pino.
Plusieurs habitations ont été endommagées par cette série de tornades destructrices qui ont balayé plusieurs États américains. Tout danger n'est pas écarté puisque d'autres fortes tornades menacent le Tennessee, l'Alabama, le Kentucky ainsi que le Mississippi, où de violents orages frappaient la région, a indiqué le Service national de la météo en lançant des dizaines d'alertes. Selon les chaînes de télévision ABC et NBC, la plus jeune des victimes est un petit garçon de 7 ans retrouvé mort dans une voiture renversée par la tempête dans l'État du Mississippi, où au moins 40 personnes ont été blessées selon les services d'urgence. Au total, près de 70 millions d'Américains sont menacés par le passage de ces orages et le bilan pourrait s'alourdir. La Géorgie et l'Alabama sont placés ce jeudi sous vigilance par le Service national de la météo.
Au moins 20 civils, dont 7 enfants, ont été tués ce jeudi dans des frappes aériennes du gouvernement syrien. Des dizaines de personnes ont également été blessées dans ces raids sur le centre de Amouriyé, une localité de Ghouta, de la Ghouta orientale, le plus grand fief rebelle dans la province de Damas, qui est régulièrement bombardée par le régime. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP. 2 civils ont par ailleurs été tués dans des tirs d'obus contre la localité de Douma, au nord-est de Damas. En près de 5 ans, la guerre en Syrie a fait plus de 250 000 morts et poussé à l'exode des millions de personnes.
Enquête sur les attentats de Paris. Les autorités belges ont annoncé aujourd'hui avoir arrêté et inculpé un 9e homme qui a été en contact avec la cousine de l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre. Abdullah C., né en 1985, de nationalité belge, a été arrêté et inculpé mardi d'assassinat terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste, a précisé le parquet. Il comparaîtra le 7 janvier devant un juge qui devra statuer sur son placement en détention. En France, seules 2 personnes ont été inculpées et écrouées en lien direct avec les attentats. Et malgré les efforts des enquêteurs, plusieurs suspects, dont Salah Abdeslam, restent introuvables.
Et la capitale française vit cette année une fête de Noël bien différente de celle des années antérieures, justement à cause des attentats terroristes du mois dernier, ayant fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés. La sécurité est renforcée et la prudence est de mise partout, surtout aux endroits largement fréquentés, tels les grands magasins. Les piétons, indique l'AFP, circulent sous le regard des militaires et la foule est moins dense que d'habitude à cette période de l'année. Après les attentats, les chiffres de fréquentation en décembre ne seront pas bons, reconnaît-on aux Galeries Lafayette.
Le président russe Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui le premier ministre indien Narendra Modi. La Russie espère faire des progrès dans la vente de son système de défense antiaérien. Dernier cri, le S-400. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le Zimbabwe accroît l'utilisation légale du yuan chinois, a annoncé Patrick Chimamanza, ministre des Finances zimbabwéennes, dans un communiqué. La Chine prévoit d'annuler la dette de 40 millions de dollars du Zimbabwe, qui cherche à accroître ses échanges commerciaux avec Pékin. Rappelons que le dollar zimbabwéen était devenu inutilisable après l'hyperinflation de 2009 avec plus de 500 milliards pour cent. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Zimbabwe. La ministre des Transports ghanéen a démissionné suite à la publication d'un rapport accusant son ministère d'avoir dépensé plus de 3,6 millions de cédis, soit 947 000 dollars, pour peindre plus de 100 bus aux couleurs nationales avec des portraits des quatre derniers présidents du Ghana. Des groupes de l'opposition et des organisations anticorruption avaient exprimé leur inquiétude et forcé le gouvernement à mener une enquête. La ministre des Transports, Diffa Ativor, a présenté sa lettre de démission, une décision encouragée par l'administration du président Mahama dans son projet de réduire les dépenses du pays. Selon des protecteurs de la nature et de l'environnement, l'industrie sud-africaine de la chasse au lion fait face à de nouvelles restrictions résultantes de la décision cette semaine du gouvernement américain de protéger les lions africains conformément à la loi sur la protection des espèces en danger. Ces nouvelles restrictions vont décourager les Américains adeptes de la chasse sportive de lions en Afrique du Sud, a dit la Human Society International dans un communiqué. Les chasseurs de trophées de lions payent entre 18 000 et 24 000 dollars pour tuer un mâle de 5 ans. Un mâle âgé de 8 ans avec une impressionnante crinière peut coûter jusqu'à 75 000 dollars, assurent les professionnels de la chasse.
Voilà pour la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
En studio avec nous, Eric Manirakiza pour les sports. Alors, salut Eric.
Salut Gabi.
Le sort de Van Gaal peut-il être sauvé?
Oui, les joueurs ont pris sa défense, Gabi. Nous nous battons pour l'entraîneur, a déclaré aujourd'hui le capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, assurant que lui et ses coéquipiers voulaient sauver la tête de leur entraîneur, Louis Van Gaal, sous pression à l'approche du Boxing Day. Et la presse britannique, Gabi, avance que l'entraîneur néerlandais est sur le point d'être licencié après 6 matchs sans victoire et une élimination en Ligue des Champions dès la phase de groupe. Nous avons tous une famille et parfois la famille dit les choses qui ne font pas plaisir, a déploré Rooney avant d'ajouter « Nous sommes des gens fiers et nous sommes fiers de jouer pour Manchester United ». Et hier, Gabi, Louis Van Gaal a mis un terme prématuré à la conférence de presse après seulement 3 questions. « Je vous souhaite un joyeux Noël et aussi peut-être une bonne année quand je vous verrai », avait-il lâché dans un état irrité, Gabi. Je te souhaite joyeux Noël.
Et le maître mot ici, c'est peut-être.
Peut-être.
Oui, pour Louis Van Gaal. Résultat et classement du championnat nord-américain de basketball NBA après les matchs disputés hier.
Oui, la NBA a encore gâté ses fans pour Noël. Cette année, les affiches hollywoodiennes mettent en scène 3 stars avec un duel très attendu entre LeBron James et Stephen Curry. Tandis que le futur retraité Kobe Bryant défie les Clippers. 6 mois après la finale 2015 remportée par Golden State, Cleveland revient à Oakland pour la première fois. Et les Warriors, sacrés pour la 5e fois de leur histoire en dominant les Cavaliers, 4-2, écrasent la saison 2015-2016 depuis le coup d'envoi. Une publicité, Gabi, appelant à mettre fin à la violence armée et dans laquelle figurent plusieurs stars de la NBA, le championnat de basket nord-américain. sera diffusée à la télévision le jour de Noël pendant les matchs de NBA.
Et qu'en est-il du classement justement?
Oui, pour la conférence Est, les deux premiers, c'est Cleveland et Atlanta qui vient en second lieu. Et dans la conférence Ouest, c'est Golden State, Gabi, tu sais, qui a fait des merveilles, et San Antonio en deuxième position.
San Antonio, mon équipe, il faut le dire. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie en ce jeudi 24 décembre. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Morgane.
La République centrafricaine avec le report annoncé des élections. Les autorités de transition ont proposé de repousser au 30 décembre les scrutins présidentiels et législatifs prévus dimanche. Nous rejoignons sur place notre correspondant Freeman Sipila. Bonsoir Freeman.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Alors, quelles sont les raisons avancées par les autorités pour justifier ce report?
Bon, au fait, ce report a été donc annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'issue d'une réunion regroupant les principales autorités de la transition, l'autorité nationale des élections et la communauté internationale au siège de la présidence centrafricaine. Donc, c'était en présence de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Et donc, dans les discussions, il est ressorti que, pour l'instant, tenir les élections le 27 décembre serait tromper la population. L'ANU a donc fait des démonstrations pour dire que deux principales raisons justifient ce léger glissement. D'abord, le problème logistique. Jusqu'à samedi, il serait totalement impossible de déployer tous les matériels électoraux à l'intérieur du pays, dans les différentes villes de province et surtout à l'étranger, dans les pays limitrophes de la République centrafricaine, comme le Cameroun, le Tchad, les pays où ces élections doivent aussi se tenir. Le second point, c'est le problème de formation des agents des bureaux de vote. Donc, le vice-président de l'Autorité nationale des élections, M. Kongaba, donc, a rappelé à l'assistance que lors du référendum, l'ANE a eu beaucoup de problèmes dans le remplissage des formulaires, le remplissage des procès-verbaux. Donc, ce qui fait que plusieurs centres de vote n'ont pas été pris en compte. Et donc, il faudrait un peu de temps pour former les agents des bureaux de vote, pour leur permettre de faire le travail pour que le président qui sera élu ou les députés qui seront donc élus puissent être élus dans la transparence. Donc ces deux raisons justifient ce report de 3 jours. Donc finalement, au lieu du 27 décembre, ces élections se tiendront le 30 décembre, c'est-à-dire le mercredi prochain.
Et que disent les autorités Freeman Sipila concernant la sécurité pour ces élections?
Concernant la sécurité pour ces élections, pratiquement au début de soirée, le ministre de la Sécurité publique a donc fait une déclaration sur une radio locale pour appeler la population à l'apaisement et surtout pour mettre en garde les probables perturbateurs de ces scrutins. Donc il a rassuré la population que toutes les dispositions sont déjà prises pour sécuriser ces élections à Bangui et à l'intérieur du pays. Donc, pour la sécurité, ça sera les forces de sécurité intérieure associées aux forces internationales, notamment les forces de la MINUSCA et la Sangari. Donc, ils seront déployés sur le terrain pour assurer la sécurité de ces scrutins pour justement éviter les débordements comme on a connu lors du référendum.
Mmh. Bon, bah écoutez, merci Freeman. C'était donc le point sur la situation en République centrafricaine avec le report des élections.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, deux thèmes au menu. Rwanda. Paul Kagame risque-t-il de compromettre son bilan s'il se maintient au pouvoir au-delà des limites du mandat présidentiel? Et République centrafricaine, les élections seront-elles déterminantes pour un retour à la paix? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Burkina Faso va transmettre incessamment à la Côte d'Ivoire la demande d'extradition de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, visé par un mandat d'arrêt international pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. La justice militaire accuse le tombeur du père de la révolution burkinabé d'attentat contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et aussi, Morgane, complicité de recel de cadavres.
Cette action judiciaire est perçue comme un test sur les relations futures entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Éric Manirakiza joint à Ouagadougou l'analyste politique, le professeur Albert Ouédraogo.
À ma connaissance, il n'existe pas une tradition d'extradition politique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, chaque fois que des hommes politiques ont eu du mal avec les autorités de leur pays, ces hommes ont toujours eu l'asile dans l'un ou l'autre des deux pays sans qu'à un moment donné, il y ait eu une extradition. Donc, je crois que ça va être difficile pour le président Alassane Ouattara d'extrader le président Compaoré. Tout au plus, ce qui lui sera possible, c'est peut-être de demander à son hôte de changer de pays, que c'est qui lui éviterait justement de devoir faire face à cette difficulté, je dirais, géopolitique.
Justement, en termes de conséquences géopolitiques, qu'est-ce qui générait notamment la Côte d'Ivoire?
Il y a des questions de gratitude. N'oubliez pas qu'au temps fort de la crise ivoirienne, le président Compaoré a été quand même d'un grand secours. Les rebelles entre griffes qui avaient maille à partir avec le régime du président Gbagbo, si bien que quelque part, sans cette base arrière et ce soutien politique, stratégique et militaire, il était difficile à la rébellion de tenir aussi longtemps. Donc aujourd'hui, voir que ces mêmes autorités sont au pouvoir, surtout la frange de la rébellion, en relation avec le RDR, il est difficile humainement de dire que nous allons payer en monnaie de singe l'action bénéfique qui avait été menée en son temps.
Il doit donc lui renvoyer l'ascenseur.
Ben oui, c'est une question à savoir quand vous accordez l'asile. C'est-à-dire que au-delà même des aspects géopolitiques, c'est même des questions humaines.
Mais l'absence d'un accord d'extradition entre les deux pays, ça peut, disons, couvrir la Côte d'Ivoire, c'est un argument juridique très fort.
Oui, c'est un argument juridique très fort, mais il est que les relations entre les deux pays sont telles que politiquement, il est difficile de faire semblant comme si cette demande d'extradition n'avait point existé pour les nouvelles autorités. Donc, quand je regarde un peu, je tourne la question dans tous les sens, la posture actuelle n'est pas tenable pour les autorités de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas tenable pour beaucoup de raisons.
Voilà, c'était le professeur Ouédraogo, analyste politique, joint à Ouagadougou.
Quel bilan de l'année 2015 en Afrique? Des changements survenus au Burkina Faso, aux attaques de Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad, en passant par la controverse du troisième mandat au Burundi, au Rwanda, en RDC et au Congo-Brazzaville. Retrouvez-nous ce vendredi 25 décembre à partir de 17h30 temps universel sur VOA Afrique. John Lyndon, je serai à la présentation.
Beaucoup de spéculations dans la presse malienne par rapport à la ratification de la Convention de New York du 28 septembre 1954 qui définit le vocable apatride comme toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. L'avocat Zoumana Ndjizumbia, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale du Mali, explique au micro de Modibo Dambélé les raisons qui justifient la ratification de cette convention par le gouvernement de Bamako.
La définition de l'apatridie, c'est quelqu'un qui n'a aucun lien juridique avec un État. C'est une convention qui qui date de, d'après la Seconde Guerre mondiale. Le Mali n'avait pas encore ratifié ça. Donc, pour essayer en tout cas de réduire le taux d'apatridie, l'Assemblée nationale du Mali a ratifié la convention pour permettre à l'État du Mali d'adhérer en tout cas à la convention sur l'apatridie.
Pourtant, certaines personnes prêtent au gouvernement malien que le vote de cette loi serait surtout pour essayer de couvrir certains membres de la rébellion. Est-ce vrai?
L'apatridie n'a rien à voir avec la guerre qui se passe, la rébellion qui se passe au nord du pays, parce que l'apatridie signifie ceux-là qui n'ont aucune nationalité, en tout cas qui ont des difficultés à prouver leur nationalité par rapport à un état bien déterminé. Alors que la guerre ou la rébellion qui se passe au nord, ceux qui le font ont très bien une nationalité. Donc, à ne pas confondre.
Est-ce qu'ils vont bénéficier de cette loi, surtout les ténors de la rébellion Touareg actuelle?
Je vous dis, en fait, l'apatridie n'a pas un lien avec la rébellion. Donc, pour vous dire, toute personne qui a une nationalité ne peut pas profiter du statut d'apatride. Donc, l'apatridie signifie que quelqu'un qui n'a aucune nationalité et qui n'a aucun lien juridique avec un État bien déterminé. Alors que ceux qui se battent au Nord ont bel et bien une nationalité, donc ne sont pas concernés par la Convention sur l'apatridie.
Et pourquoi le gouvernement malien a-t-il attendu pendant tout ce temps pour pouvoir ratifier cet accord ou cette convention?
Vous savez, mieux vaut tard que jamais, c'est la question même qu'on a posée au gouvernement. Mais en effet, vous savez, quand il y avait la guerre de 1945, en fait, les États africains n'étaient pas touchés par les histoires d'apatridie. Mais avec les guerres maintenant qui se passent en Afrique, on fait en sorte que les dirigeants africains ont eu la conscience. Parce que vous savez, quelqu'un peut être déplacé dans un autre pays à cause d'une guerre et des enfants peuvent naître dans ces conditions-là. Ces enfants-là qui sont nés hors du pays et qui ont des difficultés à pouvoir établir leurs liens avec le pays dans lequel ils se trouvent ou bien le pays où ils ont quitté, étaient en tout cas frappés de manque de nationalité. Donc, c'est compte tenu de tout ça et après un lobbying du HCR que les autorités ont pris à bras le corps le problème. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui en tout cas l'adhésion du Mali à cette convention par rapport à l'apatridie.
C'était Maître Zoumana Ndji Zoumbia, président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale du Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Cap sur le Cameroun, les fêtes de fin d'année se préparent activement, mais cette fois-ci, les enfants vont devoir se passer de leurs jouets en forme de fusils et autres pistolets. Les autorités, estimant que ce type de jouets prépare les enfants à la violence, viennent d'en interdire l'importation, la vente et l'usage. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Le petit Kennedy Afuba, âgé de 9 ans, manœuvre un fusil en jouet au bois Sainte-Anastasie de Yaoundé.
As you can see, I'm using my Kalashnikov gun to shoot and kill enemies.
Kennedy dit qu'il tue les ennemis qui s'opposent à lui.
I'll kill all of them.
Ce ne sont pas des balles réelles qui sortent de son jouet, mais des boules de caoutchouc. C'est précisément ce type de jeu que l'État camerounais combat ces derniers temps. Une initiative saluée par les Camerounais dans leur majorité.
Je peux préférer les jouets comme les accordéons pour les filles, les poupées, les camions pour les garçons. Mais je défends l'achat des fusils parce que les enfants ont été très rebelles à cause de ces jouets-là. Ça les rend rebelles.
Moi, je refuse d'acheter des trucs comme les fusils, les pistolets pour qu'ils ne soient pas bruts. À ce truc comme ça, ça l'a rend violent.
Seulement cette prise de position contre les fusils en jeu n'est pas partagée par tous.
Ce ne sont que des jouets, donc je ne trouve pas d'inconvénient à ça. J'achète tout type de jouets. Ça peut être un véhicule ou alors ce n'est pas un véhicule, c'est un fusil. Pourquoi pas un fusil? Déjà, naturellement, ils voient des films où il y a de l'armée, ils rencontrent des policiers un peu partout qui utilisent des fusils, des vrais fusils.
Les sociologues apprécient l'initiative de l'État camerounais. Elle suggère d'ailleurs la mise en place d'une législation en la matière, comme le témoin Annie Dorian, sociologue.
Premièrement, le jouet doit être conforme aux normes de sécurité, car il y a des jeux dangereux. Deuxièmement, il faudrait que le jouet soit éthique. Il ne faudrait pas acheter des jouets aux enfants à caractère sexiste ou tribaliste, je dirais même violent. Ici, il faudrait tenir compte de l'aspect éthique de la chose. Le choix du jouet devrait se faire en fonction de l'objectif.
L'intégralité de ce reportage d'Edwin Moki Kinzeka dans environ 55 minutes. Et c'est la fin de cette édition.
Oui, à la présentation, Morgane Guiriec, Chérubin Dorcil et Lionel Gaïma à la production. Bonne soirée à tous.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
h temps universel. Dans 5 minutes, vous pourrez écouter le magazine au féminin avec Nathalie Barge. Mais tout d'abord, les informations.